Je travaillerai aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui l'ont fait. Je m'engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise, qui ne voit pas d'État rouge ou bleu, mais qui ne voit que les États-Unis.
Novembre 2020, Joe Biden vient d'être élu 46e président des États-Unis. Face à une nation au bord de l'implosion, il promet de refaire société. Mais deux ans plus tard, alors qu'elle s'apprête à voter pour ses élections de mi-mandat, l'Amérique n'a jamais été aussi divisée.
Shocking images, chaos.
They've broken through the Capitol barriers.
Congress has an angry pro-Trump mob storms.
Rongé par l'inflation, inquiet d'une possible récession, le pays se déchire aussi sur les questions des armes, de l'immigration ou de l'avortement.
J'espère que les anti-avortements vont être rejetés. Mais ils doivent être remplacés par des personnes qui deviendront nos leaders, avec qui nous travaillerons pour construire un avenir meilleur, où tous les habitants d'Arizona pourront contrôler leur corps et leur vie.
Cerné par les enquêtes parlementaires ou judiciaires, Donald Trump s'est lui jeté à corps perdu dans cette campagne des midterms. Le milliardaire américain a multiplié les meetings à travers le pays et entend faire de ces élections un test grandeur nature pour son avenir politique.
Donald Trump était presque un sauveur pour notre pays. Je n'aime pas sa personnalité, son arrogance, mais j'aime le businessman. Il a vraiment fait du bien à notre pays.
Autrefois bleu pour les États démocrates ou rouge pour les républicains, la carte électorale a désormais une nouvelle couleur, le violet. Ces purple states sont les États clés de cette campagne des midterms, là où tout se joue pour les candidats. C'est dans un de ces États que démarre ce reportage de Sébastien Paour et Marc Garvenès, Arizona, État des Unis d'Amérique.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Commençons cette soirée comme il se doit, avec une prière.
Alors ici, on est dans le clubhouse d'un terrain de golf au sud de Phoenix. Il y en a beaucoup en Arizona. Ici, c'est le Foothills Golf Club. Les voitures sont assez luxueuses sur le parking. Les maisons autour sont plutôt cossues. Les cheveux, globalement, sont gris dans l'assistance. Il y a environ 200, peut-être 300 personnes dans la salle. Et le meeting commence, comme à chaque fois, par une prière et ensuite le serment d'allégeance au drapeau.
Encore une fois, mon Père, nous sommes très reconnaissants. Nous disons cela au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, tout le monde, veuillez vous lever pour le serment d'allégeance. Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente. Une nation sous Dieu, avec la liberté et la justice pour tous.
Le public est venu pour la candidate républicaine au poste de gouverneur. Elle s'appelle Kerry Lake, mais elle n'est pas là, elle n'a plus de voix. C'est donc un autre candidat soutenu lui aussi par Trump qui prend la parole, Blake Masters, candidat lui au Sénat.
Avez-vous parfois l'impression que les démocrates détruisent ce pays exprès? Joe Biden est incompétent, Kamala Harris est incompétente. Et c'est bien pire que de la simple incompétence. Il manque à tous leurs devoirs à la frontière sud du pays. J'ai appelé à la destitution de Joe Biden pour ça. Ils n'ont tout simplement pas fait leur boulot. Beaucoup de gens comparent Joe Biden à Jimmy Carter. Avez-vous entendu ces analogies? Je pense que c'est injuste pour Jimmy Carter. Mais Kerry Lake sera votre prochain gouverneur, si Dieu le veut. Et avec votre aide, je serai votre prochain sénateur. J'ai besoin que vous votiez républicain à toutes les élections.
parlez-vous français?
Oui, et vous?
Well, that's it, no mas. Larry Kelly, I'm 86 years old.
Je suis Larry Kelly, j'ai 86 ans.
I don't trust the elections.
Je n'ai absolument aucune confiance dans ces élections, en tout cas jusqu'au résultat.
I pray to God.
Je prie Dieu chaque jour qu'elle soit juste
and honest.
Et honnête.
Yes, I hope so.
Oui, je l'espère vraiment.
I trust the Lord will help us.
J'espère que le Seigneur nous aidera à avoir des élections justes
and honest politicians.
Et des politiciens honnêtes.
I think if our country
je pense que si notre pays se contentait de suivre les 10 commandements, dis la vérité, aime ton prochain, etc., etc., nous aurions un pays merveilleux. Mais nous avons perdu ces valeurs. Je pense qu'il y a eu fraude, que les démocrates complotaient dès le début du processus électoral de 2020. Ils ont comploté pour permettre aux algorithmes de modifier les votes. Ils ont réussi à bourrer les urnes. Je veux dire, il suffit de voir la vidéo de ce bureau de vote en Géorgie, où après avoir renvoyé tout le monde à la maison à 1h30 dans la nuit, ils ont sorti des urnes de sous les tables et les ont transportées. C'est à la télévision, oui, oui. Il y a des tonnes de vidéos sur ce qu'il s'est vraiment passé. Donc oui, je suis MAGA, je suis Make America Great Again. Je pense que ce qu'on appelle l'extrémisme américain, c'est simplement être patriote, se lever devant notre drapeau, connaître par cœur le serment d'allégeance, permettre la prière à l'école ou dans l'espace public. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. C'est sur ces valeurs que notre pays a été fondé. La haine qui a été vomie par les médias, les injures, c'est tout ça qui est en train de détruire notre pays.
On a l'impression que Trump est partout dans cette campagne. Les candidats ici étaient soutenus par Trump.
Eh bien, c'est vrai. Mais après tout, Trump a soutenu toutes ces personnes qui ne sont pas dans la norme des républicains d'avant. Et j'aime ça. Je pense qu'il a une très bonne influence sur le parti. Ceux qui appuient l'autre bord n'ont pas une aussi bonne influence sur la politique. Moi, je suis constitutionnaliste. Je crois en la Constitution. Je suis sûr que les Français croient en leur Constitution. Après tout, ils ont tué beaucoup de gens pour bien faire les choses, pas vrai? Je pense que la nouvelle direction du parti, même si elle fait des erreurs, la nouvelle direction est probablement une très bonne chose. Actuellement, les gens à Washington ne semblent pas intéressés par faire leur travail. Vous voyez, quand Blake parlait de ce qui pose problème aux classes sociales les plus basses de la société, aux classes moyennes, beaucoup à Washington ne savent pas qu'elles existent vraiment. C'est comme s'il y avait un pays séparé. Je ne sais pas ce que les démocrates ont fait dont ils peuvent se vanter, sauf faire de mauvaises choses pour le pays. Si vous regardez la frontière sud, ils ont supplié les migrants de venir ici. Et ils les supplient aussi de voter pour eux. Ils leur ont envoyé une lettre. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un gouverneur, je ne me souviens plus lequel, a envoyé une lettre aux migrants pour les encourager à s'inscrire pour voter. S'ils viennent de traverser la frontière, c'est illégal. Donc, si c'est vrai, pourquoi est-ce que personne ne les poursuit?
Ce sont des fake news?
Je ne sais pas. Il y a tellement de fake news qui circulent et sont relayées par des médias grand public, je ne sais pas. Vous, vous êtes ce type de média, mainstream, ou vous êtes un petit média?
Nous sommes un média étranger.
Ah, d'accord. Eh bien, alors c'est un grand spectacle pour vous de vous asseoir avec votre popcorn et de dire « Oh, regardez ce qui se passe !»
Operates might seem kind of upside down, and I put aside the party politics so we can accomplish results together. I'm Mark Kelly, and I approve this message.
Mark Kelly's made Arizona unsafe. I'm Blake Masters, and I approve this message. Arizona police endorse me because we've got to protect Arizona.
Alors, on est devant un bâtiment en tôle, sans fenêtre. On est dans la banlieue de Mesa, c'est au sud de Phoenix. Ce bâtiment, en fait, c'est un stand de tir en intérieur, le Caswell Shooting Range. On vient parler du contrôle des armes à feu, qui est aussi un des sujets de cette campagne, notamment, évidemment, après la fusillade de Duvalde, dans l'école Duvalde, au Texas. Le tireur de 18 ans a utilisé un AR-15, c'est le fusil d'assaut qu'on retrouve dans presque toutes ces tragédies. Il faut savoir que les armes à feu, c'est plus de 130 morts par jour l'an dernier aux États-Unis. Alors on va demander ce qu'il en pense à Paul Abella, c'est un londonien qui s'est installé ici il y a environ 10 ans. C'est le responsable des ventes de ce stand de tir.
Paul?
Yes. I'm Sebastian.
Nice to meet you.
French room, a British
guy in America.
And
this
is Mark. Come this way.
Good.
Pour une raison que j'ignore, les gens en Amérique aiment beaucoup acheter des armes aux Britanniques.
Donc vous êtes un super vendeur.
Oh yeah.
Est-ce que les gens de notre ville ont beaucoup d'armes à feu ? Oui, c'est un passe-temps très très populaire ici, aux États-Unis en général, et en Arizona en particulier.
Est-ce qu'il est autorisé de porter une arme en Arizona sur soi en permanence ?
Oui, oui. C'est constitutionnel. Si vous êtes citoyen américain, sans antécédent, vous pouvez porter une arme. Dissimulé ou non.
Est-ce que vous avez vu des changements dans la manière de se comporter avec des armes depuis les tueries récentes comme celle d'Uvalde qui ont fait beaucoup réagir, y compris dans le camp républicain et y compris chez les possesseurs d'armes qui font partie de la NRA, le lobby des armes?
Pour être honnête, je n'ai pas vu beaucoup de différence. En 2020, en revanche, on a vu un énorme changement. Tout le monde a acheté des armes en 2020, avec le Covid d'abord, puis avec les émeutes à Phoenix. Tous ceux qui ont envisagé d'acheter des armes à feu l'ont fait.
Est-ce que vous vendez des AR-15 ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, énormément de ces fusils semi-automatiques.
C'est l'arme que vous vendez le plus ?
Non, c'est les Glock. Les pistolets semi-automatiques, c'est l'arme la plus populaire dans le pays. Je précise aussi que l'AR-15 n'est pas un fusil d'assaut, ce n'est pas un fusil militaire avec un chargeur. Ce n'est pas quelque chose d'effrayant. C'est un fusil, vraiment juste un fusil.
Qui sont les gens qui viennent suivre des cours ici?
La grande majorité des personnes que nous formons, ce sont des nouveaux tireurs. Des familles, un groupe de femmes le jeudi. C'est très répandu dans la société. Ils tirent sur des cibles qu'ils iront ensuite suspendre chez eux. Ce sont des gens ordinaires. Si vous faites le tour du centre commercial, la moitié des gens viennent tirer ici. C'est juste que c'est un passe-temps, comme la randonnée. C'est très très populaire.
Est-ce que vos clients sont des républicains ou des démocrates ?
La majorité sont des républicains. Mais nous avons aussi des démocrates. Nous avons les deux. L'Arizona est de plus en plus divisé sur le sujet. C'est un véritable swing state en ce moment. Ça devient comme la Californie. Beaucoup de nouveaux tireurs viennent de Californie. Ils veulent une arme pour apprendre à tirer, pour se défendre.
Qu'est-ce que vous répondez à Biden quand il dit, après la tuerie d'Uvalde, celle de Buffalo, où il est allé, à chaque fois c'est la même chose. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il dit, for God's sake, nom de Dieu, quand est-ce qu'on va prendre des mesures, quoi?
Rappelez-vous qu'au Royaume-Uni, nous avons interdit les armes de poing en 1993 ou 1994. Tout le monde a rendu consciencieusement ses armes dans les postes de police. Bien, ça n'arrivera pas ici. Aux États-Unis, il y a 400 millions d'armes à feu. Donc si vous les interdisez demain, ou si vous interdisez leur vente demain, qu'allez-vous faire de toutes ces armes? Ça ne résout rien.
Donc le second amendement a encore de longs jours devant lui.
Ce sera comme ça pour des millions d'années.
Pensez-vous que les élections de mi-mandat vont changer quelque chose sur la question des armes ou pas du tout?
Non, rien du tout. La question des armes à feu va durer éternellement. Même si ça semble s'être calmé actuellement, ça va reprendre.
Et la politique ne changera rien?
Non, à mon avis, non.
So this is your big scary AR-15 shell. Okay. That's a hunting round. So that's what everybody's scared of, this.
But that's a big scary round, that one. Yeah.
This is heavy.
Yeah, that's a 338. That'll shoot someone at a mile and a half, accurately.
Les balles qu'il est en train de mettre dans son chargeur sont celles d'un AR-15, en fait. Il va tirer à l'air. Donc il insiste sur le fait que la taille des balles dans un AR-15 qui est utilisé dans les fusillades n'est pas si impressionnante que ça. On regarde ce qu'on peut mettre dans un pistolet de 8 ou 9 mm, des balles plus grosses. Et quant à la cadence de tir, il explique que l'AR-15 qui est vendu dans le commerce, accessible à tous, pas celui qu'il va utiliser pour la démonstration, est un fusil semi-automatique, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois, à chaque balle, actionner la gâchette. Contrairement à ce qu'il va faire là pour nous montrer.
Préoccupation principale des Américains, on trouve l'inflation, la peur d'une récession, mais aussi la question de l'avortement autour de laquelle Joe Biden espère mobiliser son électorat. Depuis l'abandon de l'arrêt Roe versus Wade par la Cour suprême en juin dernier, signant la fin du droit à l'avortement au niveau fédéral, chaque État décide de sa politique en la matière. En Arizona, les femmes ne peuvent avorter que jusqu'à 15 semaines de grossesse. Aucune dérogation pour les victimes de viol ou d'inceste, ni même si le fœtus présente des anomalies génétiques. Seule exception, si la vie des femmes enceintes est menacée. On retrouve Sébastien Paour et Marc Garvenès dans la clinique du docteur DeShawn Taylor. Aucun nom et aucune plaque à l'entrée de cet immeuble très discret, situé en plein cœur de Phoenix, capitale de l'Arizona.
Okay. So Lee's gonna show you guys how to
do this. Okay. Thank you.
You've been here before? I apologize for that. Let's help you. Hi. I'm Dr. Taylor.
Hi, Dr. Taylor, how are you?
I'm okay. I need to finish getting myself ready for the morning.
Okay.
C'est mieux qu'on nous mette dans une petite pièce à l'écart plutôt que dans la salle d'attente où s'il y a des patientes qui arrivent, elles seront peut-être un petit peu effrayées par nos micros.
Je suis le docteur DeShawn Taylor. Je suis obstétricienne et spécialiste en planification familiale. Je suis la propriétaire du planning familial Desert Star à Phoenix, Arizona. J'opère depuis 9 ans et depuis, le nombre d'avortements est en hausse chaque année. Je dirais que dans ma clinique, on pratique probablement la majorité des avortements ici en Arizona. Je suis arrivée ici il y a 13 ans, en 2009. Et depuis, chaque année, sauf une fois, il y a eu une nouvelle loi restrictive sur l'avortement. C'est une façon méthodique d'en réduire l'accès. La seule façon pour nous de lutter contre ça, c'était la voie légale. On pouvait invoquer l'arrêt de la Cour suprême, Roe versus Wade, et c'est ça qui permettait, depuis les années 70, que le droit à l'avortement soit maintenu. Maintenant, cet arrêt n'existe plus. C'est fini. Quand j'ai décidé d'aller à l'école de médecine, je n'imaginais pas une seule seconde que je pourrais potentiellement être une criminelle. Tout ça pour avoir fourni des soins essentiels et sauvé la vie des gens. Donc pour moi, rien ne changera, sauf si on change les gens qui nous gouvernent actuellement.
Vous arrivez au point qui nous intéresse, à ces élections de mi-mandat. Les sondages disent que sur cette question de l'avortement, l'avis des électeurs peut changer, ou peut en tout cas mobiliser les électeurs, les faire aller aux urnes, y compris dans le camp républicain, pour les faire voter en faveur de ceux qui sont favorables à un vrai droit à l'avortement. Qu'est-ce que vous pensez de cela ?
Je crois que ça fait bouger les gens, oui. Mais je m'interroge. Est-ce qu'ils aiment simplement défiler, se rassembler sur Twitter, en parler? Où est-ce qu'ils vont vraiment aller voter avec cette question en tête? L'intérêt du public autour de cette question est vraiment très très fort. Les militants de tous bords essayent de mobiliser les électeurs pour les amener aux urnes. Alors bien sûr, il y a des extrémistes qui campent sur leur position et qui espèrent que les élections de mi-mandat vont leur être favorables. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se revendiquent comme républicains ou comme indépendants, qui sont en colère contre ces atteintes au droit à l'avortement. Ils pourraient faire la différence. Si ces gens vont vraiment voter, nous avons une vraie chance de faire la différence. Donc, j'espère que les anti-avortements vont être rejetés. Mais ils doivent être remplacés par des personnes qui deviendront nos leaders, des personnes avec qui nous travaillerons pour construire un avenir meilleur, où tous les habitants d'Arizona pourront contrôler leur corps et leur vie. Donc, nous devons voter pour défendre ces valeurs.
Alors il y a un sujet qui a été quasi absent de la campagne, c'est l'environnement. L'Arizona pourtant est bien touché, hein, on le ressent là par le réchauffement climatique. Phoenix est une des villes les plus chaudes du pays depuis des années. On a demandé son avis à Lorraine Kuby, c'est une écologiste convaincue. Lorraine, elle est candidate à un siège à la commission de l'Arizona, l'organisme local qui fixe notamment les normes en matière d'énergie renouvelable. Elle était conseillère verte municipale de Tempe quand le projet de premier quartier sans voiture des États-Unis a été voté. Le chantier n'est pas terminé, mais elle nous fait visiter.
C'est le premier quartier sans voiture aux États-Unis.
Oui, il s'appelle Cul-de-sac. Et l'idée, le principe, c'est de vivre dans ce qu'on appelle une ville des 5 minutes. C'est-à-dire que vous avez accès à tout en 5 minutes. Pour vous déplacer, il y a des véhicules partagés, des cyclomoteurs, des scooters, des vélos mécaniques ou électriques. Il y a même un magasin de vélos qui a ouvert. On défend vraiment l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une voiture pour vivre et s'épanouir dans une région désertique comme la nôtre. On peut avoir un mode de vie plus sain et moins cher. C'est un concept unique et pour y arriver, il a fallu convaincre l'ensemble du conseil municipal parce qu'au début, la réaction a été « Quoi ? Pas de parking ? Mais comment vont faire les habitants, les commerçants ?» Et puis rapidement, tout le monde s'est rendu compte que non, vous n'avez pas besoin de parking pour vivre. On fait même des économies et ça libère de l'espace en termes d'urbanisme. On peut créer plus de lieux de vie que s'il y avait eu des parkings partout.
Plus généralement, est-ce que la question climatique, le réchauffement climatique, a un écho dans un État comme celui-ci, républicain, en plein désert ? Ou est-ce que vous prêchez précisément dans le désert ?
74% des habitants d'Arizona souhaitent voir une transition énergétique propre. Ça surprend les gens quand je dis ça, mais ça vient d'une étude très sérieuse réalisée par le Centre pour le futur de l'Arizona. Je pense que nous sommes en première ligne de la crise climatique dans notre pays. On le voit avec les feux de forêt. Avant, il y avait une saison pour ça. L'année dernière, ça a démarré bien plus tôt, dès le mois d'avril. Avant, ces feux touchaient essentiellement le nord-est de l'État. Aujourd'hui, il y en a aussi dans le sud et ils sont plus fréquents, plus intenses. Nous connaissons la pire sécheresse depuis 1200 ans. Notre qualité de l'air est l'une des pires du pays. Nous sommes au 5e rang dans le comté en termes de pollution à l'ozone. Nous sommes au 7e rang en termes de pollution aux particules fines. Tout cela conduit à des maladies pulmonaires, à de l'asthme. Et puis maintenant, il y a aussi les inondations. Je pense que les gens constatent qu'il existe un lien entre tout ça et que nous devons vraiment nous attaquer à ces problèmes.
Mais le changement climatique ne me paraît pas être très présent dans les débats électoraux, en Arizona en tout cas, que je peux voir dans les publicités que je vois à la télé. On parle d'avortement, on parle d'armes, on parle d'immigration, évidemment, avec le mur à la frontière, mais on ne parle pas beaucoup de changement climatique.
C'est vrai, il y a eu un article récemment dans la revue Nature, je crois, qui parle exactement de ça. Les gens sont très perturbés par le changement climatique, mais ils pensent que personne d'autre qu'eux ne s'en soucie. Sauf que c'est faux, ils ne sont pas seuls. C'est difficile parce que vous avez effectivement beaucoup de politiciens qui sont définitivement des négationnistes du climat et de la science. Ils parlent d'une manière très simpliste et les gens les croient. Donc je lutte activement pour montrer aux gens que, contrairement à ce qu'ils pensent, le solaire coûte moins cher que le nucléaire.
Est-il difficile d'être verte aux États-Unis et en particulier en Arizona aujourd'hui quand on fait de la politique ?
De moins en moins, c'est plus facile d'être écolo de nos jours. Et ça, c'est grâce aux jeunes générations. C'est pourquoi je fais d'abord campagne auprès d'eux, car je suis convaincue que les décisions que je prends comme membre du Conseil et que je prendrai en tant que commissaire auront un impact sur les générations à venir. Quand je dis que j'ai encore de l'espoir, je ne parle pas des gens de ma génération. Je ressens une espèce de culpabilité générationnelle. J'ai 65 ans, je suis une boomer. Pendant longtemps, je n'ai rien fait pour que ça change. Mais dans 2 mois, je vais être grand-mère. Et sur l'échographie, on a découvert que le bébé serait aussi un petit démocrate.
Alors là, on est à l'entrée du Catalina State Park. On est au nord de Tucson, dans le sud, centre-sud de l'Arizona. Après avoir vu comment les villes pouvaient essayer dompter la chaleur à Tempe en banlieue de Phoenix, on va voir ici que l'eau, les inondations peuvent aussi faire disparaître des arbres ou des plantes bissants. T'aimes les serpents?
Non, je déteste les serpents.
Il y en a ici, t'es.
Ouais, j'ai vu.
Park Ranger. On entre dans le parc. Magnifique parc, de grands cactus qui montent à facilement 5 mètres de haut, avec une espèce de montagne assez pelée, couverte de cactus, on dirait comme des petits porte-manteaux qui sont posés dessus, avec toujours une branche verticale plus haute que les autres, et puis d'autres qui partent d'un peu plus bas et qui montent elles aussi vers le ciel. Très vert, ils sont gorgés d'eau, paraît-il, enfin Steve va nous expliquer ça en détail.
Alors, quoi de neuf?
Il y a un crotale, un crotale.
Ah, et ils ne veulent pas voir de serpent.
Ah, celui-là, ça fait un moment qu'il est sur le sentier.
C'est déjà le deuxième qu'on voit aujourd'hui.
Où est-il? Ah oui, je le vois là. Allez, approchez. Donc, ces gars-là sont de la Radio Publique Nationale Française.
Hello.
Hello, nice to meet you. Sorry.
Welcome to Arizona. Bienvenue en Arizona.
What is this thing? C'est quoi ce serpent?
It's a rattlesnake. C'est un crotale. And il est venimeux.
But he doesn't want anything to do
with vous ne craignez rien. Vous êtes trop gros pour lui.
Right? So he doesn't want
to. Il gaspille pas son venin.
So he'll do everything he can to.
Il fait tout ce qu'il peut pour vous faire peur, les gars. Mais secouez sa queue. Attention de ne pas s'approcher trop près. Ici, juste à côté du sentier principal, il y avait un saguaro. C'est une espèce de cactus. Il était gigantesque. Je ne suis pas expert, mais je dirais qu'il avait plus de 150 ans, peut-être même plus de 200 ans. Ce qu'on voit ici, c'est ce cactus géant qui est tombé dans 3 directions différentes. Donc en allant par là, vous pouvez voir quelque chose comme 9 ou 10 bras qui sont tombés par ici. La plus grande partie est tombée par là. D'habitude, il survit sans problème dans cet environnement aride. Il supporte la sécheresse car il fait des réserves quand il pleut.
Holding water because they know, hey,
il sait qu'il peut s'écouler 6 mois, 1 an, ou même 2 ans sans eau.
So this summer, where we had so much rain, almost 13 inches of rain.
Mais là, cet été, nous avons eu énormément de pluie, plus de 30 cm en 3 mois. Et pour cette région, c'est énorme. Du coup, le saguaro, bah ouais, il a explosé, il s'est retrouvé piégé par toute cette eau. Il est devenu trop lourd. J'imagine que c'est ce qui a provoqué sa chute. C'est pas évident à voir, mais regardez. Là, par terre, c'est la plus grande partie du cactus. Si vous le soulevez, ça vous donne une idée de sa hauteur. Il devait probablement mesurer entre 9 et 12 mètres de haut. L'équivalent de 3 à 4 étages, donc. Si vous arrivez à l'imaginer aussi grand, vous comprenez à quel point il était exceptionnel et pourquoi tant de personnes venaient ici. Pour le prendre en photo, pour le peindre. C'était presque une expérience spirituelle. Je veux dire, en voyant ça, les gens se disaient « Eh mec, c'est la création de Dieu, non ? C'est vraiment incroyable !» D'ailleurs, quand il est tombé, ça s'est très vite répandu sur Internet. Et ça donnait une idée du nombre de personnes profondément touchées et émues par la nouvelle. C'était vraiment particulier pour moi de voir ça, vous savez, en tant que gérant du parc, qu'autant de personnes étaient passionnées, amoureuses de ce cactus.
Est-ce que selon vous, la chute, la perte de ce cactus iconique, très vieux, très haut, peut-être le plus haut du parc, a à voir avec le réchauffement climatique ?
Oui,
en Arizona, ça fait 25 ans que c'est sec et désertique. Et là, je peux vous dire, en tout cas ici au parc, les 2 dernières saisons de mousson ont été exceptionnellement humides. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le changement climatique ? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les 2 derniers étés ont été très humides et que les hivers ont été très secs. On a eu beaucoup de pluie en juillet, août, septembre, et après plus rien en octobre, novembre et décembre. L'inconvénient, c'est que ces pluies de mousson sont très violentes. Les nuages se forment et boum, vous avez quasiment 3 cm d'eau qui lave tout. Il pleut beaucoup trop en très peu de temps, donc l'eau dévale. C'est pour ça que les pluies hivernales sont importantes. Elles sont plus légères et plus régulières et permettent à la végétation de vraiment s'en imprégner.
Lorsque Donald Trump était président, il avait promis la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique pour empêcher les migrants d'entrer aux États-Unis. Ici, à Yuma, dans le sud-ouest de l'Arizona, la construction n'a jamais été terminée. Au loin, le fleuve Colorado, frontière naturelle, et côté américain, des immenses champs de salade qui gardent les traces des passages des migrants. C'est là que l'on retrouve Sébastien Paour et Marc Garvenès.
Interception sur France Inter.
Regarde. Au pied de ces lampadaires, là, il y a un petit reposoir. Regarde ce qu'on trouve. Je ne sais pas si ce sont des vrais. Il y a 4 passeports et plusieurs pièces d'identité. 3 passeports de Colombie et un passeport du Panama. Ça, c'est celui de Lara Escobar, née à Cartagène, en Colombie, en 2009. Celui-ci du Panama. Ah ben c'est Lara Escobar aussi, en 2014. Ça sent le faux papier, non ? Bon, trouver des pièces d'identité au bord d'une frontière, c'est assez normal. T'en trouver plusieurs au même nom, de pays différents, ça sent l'arnaque. Ah bah tiens, on dirait une famille qui arrive, on dirait qu'elle a traversé la frontière.
Hi. Do you speak English?
Alina?
From Colombia.
From Colombia?
Yeah.
You cross the border between Mexico and United States?
Yes.
Walking?
Walking.
How do you feel? Are you okay?
Yes. Thank you.
Ils sont 5, ils sont colombiens. Il y a Rodrigo, 39 ans, Jennifer, 32 ans, leur fils Nathan, 4 ans, ainsi que le frère de Jennifer et sa femme. Ils espèrent qu'ils vont pouvoir être considérés comme demandeurs d'asile.
we take airport to Bogota, Mexico. We arrive to La Paz.
La Paz. So you flew a plane?
A plane. In the airport, and we take the bus on the station, the bus from La Paz to here in bus.
On a pris un vol entre Bogota et La Paz, ensuite un bus de La Paz jusqu'à l'autre côté de la frontière et ils ont fini en marchant longtemps ici. Ils demandent l'asile avec sa femme, son fils qui a 4 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait qu'il y a des tas de républicains notamment, et notamment en Arizona, aux États-Unis, qui ne veulent pas de migrants évidemment?
Oui, nous sommes au courant de ce que vous dites. Apparemment, les autorités américaines ne nous gardent pas en Arizona. Ils ne nous veulent pas ici. Ils nous envoient dans d'autres États. Non, le Texas, c'est comme l'Arizona. Plutôt Washington. Ici, non.
Et donc, ils veulent aller plutôt vers l'État de Washington, démocrate. Plus amicaux, friendly.
Yes.
Plus accueillant.
Les migrants. With many people friendly with the migrants.
Thank you. Muchas gracias. Alors, si les indications sont bonnes, ce chemin de terre sable mène au ranch de Laurie et Emmett, un couple de républicains qu'on va rencontrer. On est dans le nord-ouest de l'Arizona, entre Las Vegas, au Nevada, et le Grand Canyon, en fait. Paysage où le relief commence à se dessiner. On devine peut-être les prémices de ce Grand Canyon si célèbre. On fait beaucoup d'élevage ici, et Laurie et Emmett élèvent, eux, beaucoup de bétail. On va parler politique, notamment, avec eux. On s'engage sur ce chemin ?
Allez.
Je pense que c'est ça.
Nous sommes des républicains très conservateurs. La plupart des agriculteurs le sont. Nous les soutenons, encourageons et promouvons chaque jour. Je suis déjà allée sur les réseaux sociaux ce matin et j'ai publié un post parce qu'il est essentiel que les gens comprennent ce qui fait la différence. Soit vous croyez à la libre entreprise en tant que républicain ou conservateur, soit vous pensez que l'État doit tout gérer dans votre vie.
Il y a une crise en ce moment, vous parlez de crise entre les démocrates et les républicains, mais également au sein des républicains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voyez, vous aussi, cette différence, cette séparation qui se fait au sein des républicains?
Laissez-moi vous dire ceci, nous ne sommes pas près de la scission. Certains parlent de suprématie blanche. Mais ce n'est qu'une infime fraction d'excentriques. Les républicains conservateurs ne croient pas en ça. C'est pareil pour les Noirs. Ils ne sont pas tous favorables à Black Lives Matter. C'est un tout petit groupe qui soutenait ce mouvement d'extrême gauche. Je connais beaucoup de Noirs qui n'étaient pas d'accord avec Black Lives Matter. Si vous êtes républicain aujourd'hui, les démocrates vous traiteront tous de terroristes et de racistes. Ils harcèlent le Parti républicain en essayant d'intimider les gens pour qu'ils soutiennent leurs idées. C'est pas normal. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. La crise à la frontière, les clandestins autorisés à entrer... Ils finiront par briser le dos de ce pays. C'est insupportable car ils ne contribuent pas à la société mais sont des assistés.
Certains républicains ne soutiennent pas Trump. Et certains sont conservateurs. Mais je ne peux pas vous dire quel pourcentage. Moi, je suis pour Donald Trump. Donald Trump était presque un sauveur pour notre pays. Notre pays aurait été plus à la traîne aujourd'hui sans lui. Je n'aime pas sa personnalité, son arrogance. Mais j'aime le businessman. Il a vraiment fait du bien à notre pays. Presque tout ce qu'il a mis en place a eu des résultats positifs. Notre pays se portait à merveille jusqu'à ce que Joe Biden arrive et le détruise complètement.
Quel est le pouvoir de Trump aujourd'hui sur le parti républicain ? Et notamment ici en Arizona.
Il y a un certain nombre de républicains qui s'inquiètent parce qu'il a cette mentalité de drainer le marécage, comme on dit, de se débarrasser des mauvais, de se débarrasser de ces politiciens de carrière qui n'ont rien fait d'autre que de se remplir les poches.
Enfin, c'est une division de plus, une fracture de plus dans la société américaine.
Ils ne sont peut-être pas tous pro-Trump, mais les républicains sont conservateurs, donc ils voteront pour les conservateurs. Mais il ne faut pas oublier que les indépendants sont en hausse aux États-Unis. Les personnes qui votent indépendants, qui s'inscrivent en tant qu'indépendants, ont augmenté de façon exponentielle en 10 ans. Et c'est maintenant eux qui contrôlent les élections. La droite vote à droite, la gauche vote à gauche, et les indépendants contrôlent les élections.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point. We must, with one overwhelming, unified voice, we need to start looking out for each other.
L'Amérique n'avait plus atteint un tel niveau de violence en politique depuis la guerre civile. Ce sont les mots de Joe Biden.
Donc là, on est au bureau de la mairie de Phoenix. On va rencontrer le supervisor Gates, Bill Gates, c'est pas le même, qui nous intéresse parce qu'il est républicain, mais qu'il a entériné, lui, la victoire de Joe Biden ici en 2020, contrairement à une bonne partie du parti. Et il est en guerre depuis contre la frange trumpiste MAGA du Parti républicain. On va le voir, il est au 10e étage. Joe Biden, depuis qu'il est président, dans tous ses discours, et même depuis le soir de l'élection, dit « Je serai le président qui va réunifier les Américains et non pas les diviser. » On est passé par... La contestation de l'élection, par le Capitole le 6 janvier, et il continue de dire qu'il va réunifier les Américains. Vu de France, on a l'impression qu'il échoue. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je dirais qu'il n'a pas réussi à atteindre cet objectif d'unification du peuple américain. Mais ce n'est pas le seul responsable. De toute évidence, le Parti républicain, les membres de mon parti et les candidats qui viennent d'être investis par mon parti, tous ceux qui ont nié la victoire de Biden, sont aussi responsables. Je pense que l'erreur de Joe Biden est d'avoir gouverné trop à gauche. Il avait un mandat pour gouverner au centre et ainsi faire baisser la température du pays. Donc ça a nui à sa volonté d'être un président rassembleur.
Il y a une division entre démocrates et républicains. Il y a une division aussi dans le parti républicain. Et de ce point de vue-là, on a l'impression que l'Amérique est encore plus irréconciliable, peut-être qu'elle n'a jamais été.
Non, elle n'est pas plus divisée que jamais. Je rappelle que nous avons connu dans le passé une vraie guerre civile. En revanche, je pense que le niveau de division de notre pays est historique actuellement, en tout cas depuis que je suis né. Voir une telle scission jusque dans le parti républicain, je pense qu'en tant que républicain, nous devrions nous regarder dans le miroir. Car pour moi, ce parti devrait être aujourd'hui un parti multiculturel, multiethnique. C'est ça qui ferait son vrai succès. Vous ne pouvez être le parti d'un groupe en particulier, d'une race en particulier. Ça ne peut pas marcher.
Est-ce qu'un 6 janvier est encore possible aux États-Unis ?
Un nouveau 6 janvier, oui, je pense que c'est possible. Et je pense que cela s'explique en partie par le fait que les dirigeants de mon parti ont essayé de justifier ce qu'il s'est passé ce jour-là. Je n'aurais jamais pensé que le 6 janvier était possible avant que cela n'arrive. Maintenant que je l'ai vu, maintenant que je vois la façon dont les gens en parlent, dont certains en parlent, oui, je pense que nous devons être très vigilants. Nous devons revenir à un état de droit. Nous devons redevenir le parti de l'autorité de la loi. Nous avons toujours défendu cette idée et j'ai l'impression que nous nous sommes égarés aujourd'hui.
Est-ce que vous croyez que Trump peut se représenter en 2024?
Oui, je pense qu'il se représentera à nouveau en 2024. Si on se fie au sondage, il réussira probablement à obtenir l'investiture de mon parti. Et il y a aussi des sondages qui disent que s'il se présente contre Joe Biden, il pourrait bien gagner. Mais bon, beaucoup de choses peuvent encore arriver d'ici là, je n'en doute pas.
Arizona, État des Unis d'Amérique, un reportage de Sébastien Paour avec une prise de son de Marc Garvenès. Réalisation Charles de Cilia, assisté de Martine Messonnier. Mixage Pierre-Henri. Cette émission est à réécouter dès maintenant sur le site de France Inter.